Merci beaucoup Pierre pour cette présentation trop chaleureuse, et enfin pas trop chaleureuse, mais trop élogieuse, je dirais. Mais non, merci pour ta chaleur. Ce qui me manque quand même, c'est l'accent occitan. Tu vois, là ça ne... dans mon Ariège où j'habite maintenant, je peux vous dire que ils le sentent tout de suite. Ils disent ah mais t'es pas d'ici. Tu as parlé aussi de ce petit mémoire que j'avais fait pour mon habilitation à la direction de recherche sur l'intervalle éthique entre courage. Alors je vais essayer de le rapprocher peut-être. Non, je vais les baisser peut-être les deux micros comme ça. Est-ce que c'est mieux comme ça? Non. Alors je prends celui-là peut-être. Je peux prendre celui-là, c'est mieux. Ah voilà, d'accord. Je garde les trois.
Il faut les éteindre.
Ah, il faut les éteindre?
On peut les laisser. Hein.
On peut les laisser, oui, si, tant qu'il n'y a pas d'effet Larsen.
Voilà.
Ça... Oui, donc, oui, tu parlais de ce petit mémoire que j'avais fait pour mon habilitation à la direction de recherche sur l'intervalle éthique entre le courage et le pardon. Juste pour vous montrer ma question, c'est que les éthiques du courage sont les éthiques, on va dire, de source grecque et... Encore plus comme ça, et qui sont des éthiques qui se sont opposées, d'une certaine manière, philosophiquement, mais plus largement, aux éthiques du pardon, qui sont des éthiques de source chrétienne. Et il y a une sorte de conflit entre la morale antique et la morale chrétienne, jusqu'au point où on a pu dire que les deux éthiques se sont entre-détruites jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'éthique ni antique ni chrétienne. Donc ni courage, ni pardon. Et donc, mon idée, c'était comment, au contraire, penser ensemble le courage et le pardon, comme étant un petit peu l'alpha et l'oméga de l'éthique. On rentre dans l'éthique par le courage, et je dirais l'horizon de l'éthique, c'est finalement le pardon, l'horizon d'espérance, on va dire. Bon, je ne vais pas du tout parler de ça aujourd'hui. Un peu, peut-être, quand même. Oui, d'abord, je voudrais dire un petit peu l'amplitude de l'humiliation. C'est un phénomène, et Georges, je n'ai cessé de le... redécouvrir après le livre, après la publication de ce petit livre, parce que j'ai été invité dans des milieux les plus différents et j'ai vu que ça touchait la vie de famille, bien sûr. Et, ma première conférence que j'ai faite, c'était dans un foyer d'étudiants, il y avait une centaine d'étudiants, et à la fin, une étudiante qui a dit, mais elle pleurait, elle disait, mais mon frère m'humilie tout le temps. Et au début, voilà, je ne le prenais pas à la rigolade, mais je disais, bon, voilà, c'est une humiliation légère, c'est entre frères et sœurs quand même, c'est pas... Et j'ai vu au bout d'un quart d'heure, d'une demi-heure de discussion avec elle, qu'elle était au bord du suicide, cette fille. Et je disais, mais tes parents, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, c'est pas grave. Et c'est un avertissement, de sentir que tant qu'on dit, on relativise le suicide, tant qu'on relativise l'humiliation, qu'on dit que c'est pas grave, etc., on ne fait que rajouter finalement au problème. Et donc, il faut prendre l'humiliation au sérieux. Et donc, les grandes tragédies grecques sont des tragédies de l'humiliation aussi. Caïn et Abel, c'est des histoires d'humiliation. Enfin, l'humiliation, elle est antique, elle n'est pas nouvelle. Hein, bon. L'humiliation dans les collèges. Je pense que ceux qui ont été un peu dans l'enseignement ont vu ce qui peut se passer entre des camarades d'école dans les cours quand ils font... Il désigne, il pointe, ou dans les réseaux sociaux, un camarade, ou au contraire, quand il le ghost, c'est-à-dire quand ils s'en font un fantôme, qu'ils ne veulent pas lui parler, etc. L'humiliation dans le monde du travail. J'ai travaillé avec des sociologues qui ont montré qu'il y avait une certaine forme de management par l'humiliation, soi-disant pour flexibiliser les gens, mais qui aboutissait là aussi à des suicides. On pourrait montrer que c'est ça qui s'est passé à France Télécom il y a une vingtaine d'années. L'humiliation dans les administrations, dans les aux frontières, partout où il y a des rapports, on va dire, avec des administrations qui peuvent devenir humiliantes, ne serait-ce que parce que voilà, elles veulent pas chercher à comprendre quand quelqu'un s'exprime mal, etc. Bon, il préfère perdre du temps, etc. Dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, il y a eu des livres là-dessus, etc. Dans les réseaux sociaux, je viens d'en parler, je pense que Internet, on a dit, c'est vraiment l'autoroute de l'humiliation, et des calomnies, etc. Si vous voulez, on a un nouveau média qui n'est plus un média écrit, avec le temps de l'écrit, qui est un temps, on est dans l'immédiateté, sans avoir les contre-pouvoirs des sociétés orales, dans lesquelles la parole de quelqu'un, il fallait la respecter, et il fallait quelqu'un qui attentait à la parole de quelqu'un, c'était très dangereux pour lui, parce que ça veut dire que sa parole, après, elle-même était décrédibilisée. Hein, bon. Donc aujourd'hui, non, on peut toujours calomnier. Aucun... Les guerres, rappelez-vous, les rapports entre la France et l'Allemagne, pendant, je dirais, des siècles, enfin, bon, depuis Sedan... traité de Versailles, on a du mal à sortir des humiliations. Et moi, ce que je vois, j'ai habité en Turquie, j'ai vu une Turquie, quand je suis arrivé en Turquie en 1980, une Turquie entièrement tournée vers l'Europe, mais vraiment, qui voulait rentrer dans l'Europe, et qui a été traitée, tout le temps reléguée, tous les autres pays sont rentrés avant elle, pour des raisons qu'on peut comprendre, hein, il y a plein de raisons, mais quand même, elle a été profondément humiliée, donc l'opinion a basculé vers le monde, finalement, des frères musulmans, il faut le dire. Et donc, la Turquie est en train de prendre sa revanche, et c'est pas fini. Un pays humilié, la revanche d'un pays humilié, bon, il faut voir la Chine, il faut voir la Russie de Poutine, à certains égards, par rapport à ce qui s'est passé en 89. Bon, c'est pas Poutine, bien sûr, il faut pas humilier Poutine. Non, mais c'est juste, une opinion publique peut mettre du temps, en quelque sorte, avant de lâcher un leader qui joue démagogiquement sur les humiliations, c'est ce qui se passe en Turquie certainement, etc. Bon. Et puis en France aussi. Parlons d'abord des États-Unis. Trump, on a beaucoup montré que Trump, c'était le résultat du fait qu'il y avait toute une catégorie de la population qui avait été humiliée par un establishment intellectuel, etc., qui en quelque sorte les traitait comme des arriérés, comme des, etc. Et donc, moi, j'ai très peur de ce qui se passe en France et de cette manipulation démagogique des sentiments d'humiliation. L'humiliation aussi, il peut y avoir des humiliations graves, cumulées, du genre un passé colonial humiliant, on vit dans des banlieues, on est donc un peu relégué, on est au chômage, les pères sont complètement dévalorisés, etc. Donc, il y a des phénomènes d'humiliation cumulative, en quelque sorte. Mais moi, je parlais aussi de l'humiliation de ceux qui étaient chez eux et qui, en quelque sorte, ne sont plus chez eux et qui n'ont plus le sentiment d'être chez eux. Ça existe aussi. Et je pense qu'il faut comprendre cette humiliation-là, ce sentiment d'être dépossédé du chez-soi, bon, qui sont exilés aussi chez eux et qui n'ont pas d'autre ailleurs, qui n'ont pas d'un ailleurs dont ils puissent rêver parce que leur ailleurs, c'était ici, donc il est détruit, il n'est plus là, quoi. Il y a aussi les petites humiliations quotidiennes, je dirais subliminales, multifactorielles, justement parce qu'on a un accent qui est moqué, ou un bégaiement, ou bien un nez trop long, ou bien parce que justement on n'a pas les vêtements à la page, ou la voiture à la page, ou dans le monde de la consommation, l'humiliation aussi, le monde du marché, notamment pour les vêtements, a été longtemps, je pense que c'est en train de tourner, mais un monde facilement humiliant, bon, etc. J'arrête toute cette longue démonstration de la diversité des humiliations donc, qui se font sur des scènes extrêmement différentes. Et alors, ce qui m'a semblé caractéristique, c'est pour ça que je m'y suis intéressé, c'est qu'il y avait une sorte de dénégation de l'humiliation. C'est-à-dire que d'une part, on est dans une société libérale, peut-être appuyée par une longue... anthropologie justement stoïcienne et chrétienne dans laquelle il est bon d'être humble ou d'être modeste. L'humilité, c'est le contraire de l'humiliation. Quelqu'un qui est humble, il n'est pas humilié parce que justement il est d'avance humble. Bon, vous voyez, bon, enfin, il en faut pour l'humilier. Bon, et c'est ça, c'est vraiment, on peut dire, la stratégie chrétienne. Bon, la stratégie stoïcienne ressemble beaucoup, c'est les opinions des autres, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est la conscience intime de soi. Donc, mais ça reste dans la pensée libérale sous la forme, tout ça c'est subjectif, d'ailleurs les mêmes choses qui humilient les uns n'humilient pas les autres, c'est pas quantifiable, on ne peut pas porter plainte, et d'ailleurs l'humiliation en général, on ne se plaint pas de l'humiliation, on se plaint d'une injustice, on se plaint d'une violence, mais c'est très difficile de se plaindre d'une humiliation. Donc il faut apprendre à se défendre, il faut se gendarmer un peu, il faut se blinder un peu, il faut pas, on est des individus libres, consentants, responsables, majeurs, vaccinés, l'humiliation, circuler, il n'y a pas d'humiliation, donc c'est pas grave, il n'y a pas de préjudice réel, une parole ça ne fait pas de mal, c'est pas grave une parole, vous voyez, c'est ça l'idée qu'il y a derrière tout ça. Et du côté d'une gauche un peu marxiste, il y a aussi l'idée que j'ai beaucoup rencontrée, que j'ai fini par me dire qu'il fallait que je la combatte, qui vient d'un certain marxisme, à mon avis un peu plat d'ailleurs, c'est que les vraies injustices sont les injustices rapportées aux inégalités économiques. Et donc finalement la lutte des classes, et que toutes les luttes pour la reconnaissance, pour le, justement, pour le respect, etc., c'est un peu de l'idéalisme hegelien, et que finalement c'est pas important, quoi, c'est pas important. Et ma question, c'est pourquoi est-ce que la pensée, la philosophie politique tout entière, hein, est à ce point décomposée et impuissante face à l'humiliation. Et mon propos, ça va être de proposer une... Alors, il y a une sorte... Oui, je termine un tout petit peu l'argument, c'est qu'on est un peu aussi, du coup, insensible à l'humiliation. On se blinde, on se blase, on est blasé. On est insensible à ses propres humiliations et aux humiliations des autres. Et d'autant plus que l'humiliation est difficile à partager, à communiquer. Donc, la question que je veux poser, ce sera une question presque esthétique, avant que d'être éthique ou politique. C'est-à-dire, est-ce que nous pouvons, esthétique au sens suivant, est-ce que nous pouvons sentir, simplement sentir, sentir l'humiliation des uns et des autres, être sensible, être sensibilisé un petit peu, sans être trop sensibilisé, hypersensible. Vous voyez, le problème de la sensibilité, c'est le réglage d'une sensibilité qui ne bascule pas du côté de l'hypersensibilité, parce que l'hypersensibilité, à son tour, elle devient insensible, en fait. Quand on est hypersensible à quelque chose, on est insensible à tout le reste. Donc c'est très dangereux, l'hypersensibilité, vous voyez. Donc il y a la question un peu philosophique, hein, que je vous pose. Alors moi, je suis rentré dans ce thème il y a longtemps, il y a plus de 30 ans, en travaillant le livre d'un intellectuel israélien qui s'appelle Avishai Margalit, intitulé, ce livre s'appelait « Société décente ». La société décente. Et en gros, il distingue trois types de sociétés, on peut dire au petit mal, la société juste, c'est-à-dire la société la moins injuste possible, et là il s'appuyait sur un grand théoricien de la justice qui s'appelle John Rawls, qui est connu, bon. Il y a les sociétés bridées. Les sociétés bridées, c'est des sociétés qui sont où il y a le moins de violence possible, et où l'exercice de la violence contre la violence est lui-même un exercice bridé, un exercice dans le cadre de la loi, un exercice le moins violent possible. On est obligé, face aux violents, d'être un peu violent, mais le moins violent possible. Vous voyez, bon, c'est ce que c'est, une société. Et finalement, la société décente, c'est la société la moins humiliante possible. Ou plutôt, disait-il, la société dont les institutions ne seraient pas humiliantes. Comme la société bridée, une société dont les institutions ne sont pas violentes, et une société juste, une société dont les institutions sont le moins injustes possible. Voilà, c'est un peu ça, la distinction des trois scènes sur lesquelles ça se passe, la scène de l'avoir par rapport de l'économie, on va dire, et de la justice sociale, de la société juste, la scène du pouvoir, et éventuellement de la rapport de force et de la violence pour les sociétés bridées, et puis donc la scène de la sphère de la reconnaissance mutuelle, de la considération mutuelle, de l'image de soi, de l'autre, de la parole, etc. Donc, pour la société décente, la société non humiliante. Je disais qu'il c'était un intellectuel israélien. Certains de ses chapitres donnent des exemples très précis de la manière dont la société israélienne de son époque peut être humiliante pour certaines catégories de population. Et notamment, le test qu'il pose pour les sociétés des institutions non humiliantes, c'est comment se comportent les institutions avec ceux qui ne sont pas membres de la société où néanmoins ils habitent ou travaillent, ou etc. Ça pose des problèmes, voilà. Alors, son hypothèse aussi, je la reprends tout à fait, c'est que vers une société plus juste, on a fait beaucoup d'efforts quand même. Surtout nos sociétés européennes, vraiment différentes en ce sens-là d'autres sociétés qui sont beaucoup moins sensibles à ça. Donc on a été très sensible à l'injustice, à l'inégalité, à la pauvreté, donc on a été le plus possible. Des sociétés bridées contre la violence, je crois qu'on a été rarement dans des sociétés aussi peu violentes, en fait, si on prend les chiffres, que la société contemporaine. En revanche, nous avons une énorme marge de progression sur la question de l'humiliation, et d'abord dans nos institutions, c'est-à-dire dans toutes les sphères, je vais y venir, hein, en même temps, voilà, il n'y a pas que l'humiliation dans la vie, hein, je ne veux pas dire que c'est l'explication de tout, etc. Mais l'humiliation peut tout contaminer. Par exemple, j'ai fait, il y a, au mois de septembre ou d'octobre, là, non, c'est en septembre, la journée du patrimoine, à Narbonne, avec le juge et le tribunal de Narbonne, une journée sur « Peut-on juger sans humilier ?» Ou bien la sécurité sociale. Tiens, la mise en œuvre de toutes les formes de l'assistance sociale, est-ce qu'elles ne sont pas à leur tour humiliantes? Il y a beaucoup de gens qui ne les demandent pas. Vous savez qu'il y a beaucoup de droits, de gens qui ne demandent pas leurs droits. Alors on peut dire qu'ils ne sont pas au courant, mais aussi une certaine forme de refus, de dignité ou de ça. Ben, imaginez les distributions de nourriture. Bon, on est traité comme des animaux, si vous voulez. Comme des, voilà, bon. Donc comment est-ce qu'on fait? L'usage de la force. Peut-on user de la force sans humilier? Qu'est-ce que serait qu'un traitement de la force sans humiliation? Et ça, c'est la question vraiment que je pose ici, c'est nous ne connaissons pas de pure injustice ou de pure violence. Ce que serait qu'une injustice sans humiliation? Ce que serait qu'une violence sans humiliation? C'est pour ça que c'est, l'humiliation est comme le poison, c'est le sous-titre du livre, c'est ce qui empoisonne. On ne sait pas ce que serait finalement ce qui empoisonne l'injustice, ce qui la rend vraiment injuste, c'est l'humiliation. Et ce qui empoisonne la violence, d'une certaine manière, une violence non humiliante, à la limite, ce ne serait pas si grave que ça. On peut la rétribuer. Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'humiliation empoisonne tout? Et c'est un petit peu ça mon enquête, si vous voulez. C'est qu'on a à voir avec... Alors, voilà, c'est ça ma question maintenant, c'est de quel poison s'agit-il? Pourquoi est-ce que avec l'humiliation, il y a un temps, ça prend du temps, ça ressort plus tard, on diffère, apparemment ça nous rend insensibles, on se met dans une carapace, dans un mutisme, et on n'arrive pas à le partager, à le communiquer, et ça ressort beaucoup plus tard, de manière vraiment souvent complètement disproportionnée. Ou un peu plus tard, mais de manière disproportionnée. Mon idée de base, je vais la redévelopper parce que ça touche la question de l'humanisation. Il y a humiliation, humanisation dans le titre que vous m'avez proposé. Et je dirais que ça défait l'humanité, parce que ça défait notre capacité d'empathie, ou de sympathie, enfin, prenez le mot que vous préférez, c'est-à-dire de capacité à avoir la ressemblance avec les autres. Les autres sont comme moi. Quand je vois un visage, c'est comme dans un miroir. Je souris, il sourit, il sourit, je souris. Bon, il y a du miroir entre nous et il y a de la ressemblance. C'est important, la ressemblance. La ressemblance, c'est vraiment le cœur de... Je dirais de l'estime mutuelle, de l'amitié, on va dire, mutuelle. Au sens, le mot amitié ne va pas parce que c'est trop proche de la, oui, de la sympathie publique, on va dire. Et puis, l'humiliation défait le respect que l'on a de l'autre et du visage de l'autre. Je vais venir sur cette question du visage. Mais je dis tout de suite, justement, l'humanité, l'humanisation, c'est justement, ça va avec l'humilité, ça va avec l'humour. Je pense que voilà, là je viens de vous donner deux ou trois mots qui seraient des mots qui seraient des chemins d'humanisation. Le mot respect, le mot bonté, peut-être, plutôt que empathie. La bonté, c'est pas mal. La bonté, c'est de voir l'autre comme moi-même. Hein. Voir l'autre comme moi-même. Et l'humour. Voilà, bon, l'humour, attention, l'humour, c'est pas l'ironie, c'est pas le sarcasme, c'est pas le rire. Le rire est très humiliant. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que j'avais souvent humilié mes enfants, parce que quand ils disaient des paroles de philosophiques, enfin, pleines d'esprit, ce que font souvent les enfants, tout de suite, j'éclatais de rire. Alors, j'ai éclaté de rire toute leur enfance, et ils ne comprenaient pas pourquoi j'éclatais de rire. Et après, je notais leurs phrases, parce que j'ai trouvé leurs phrases absolument géniales. C'est longtemps après qu'eux ont compris que je ne me moquais pas d'eux, si vous voulez. Mais moi, c'est longtemps après que j'ai compris que, voilà, le rire... c'est le rire, quand on rit des autres, est humiliant. Tandis que rire, se mettre avec, rire avec les autres, ça au contraire, c'est l'humanisation. Vous voyez, le rire, il est vraiment complètement à double tranchant. Il faut faire très attention aux manipulations du rire. Et rappelez-vous que dans la montée du racisme, et notamment du racisme nazi, tout l'humour anti-juif, c'était pas de l'humour, justement. C'était on rit pour se séparer, pour se moquer d'eux. Hein, oui, bon. Donc, il faut faire attention Dans quel sens, comme le vent, dans quel sens va le vent du rire? Il y a parfois des vents qui sont vraiment en effet dangereux. Mais bien sûr, ça dépend aussi de la réception. Donc il faut faire attention à dire, on dit quelque chose de méchant et après on dit je rigole, ah, mais je rigolais. Tu rigolais, mais voilà, t'as quand même dit ça. Il faut faire attention à, quand on dit qu'on rigole. Et ça fait rire qui? Est-ce que ça fait rire tout le monde vraiment? Ou est-ce qu'on fait rire certains contre certains autres? Oui, bon, ça, tout ça c'est la pragmatique du rire et du. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui prennent tout mal. C'est vrai, ça existe. Vous voyez, c'est pour ça que c'est un sujet qui zigzague tout le temps. Il y a des gens qui prennent tout mal, on a envie de dire, tant pis pour eux, s'ils prennent tout le temps mal, s'ils prennent tout pour eux. Bon. Mais ce n'est pas si simple. Il faut aussi faire un apprentissage. Les enfants, par exemple, si vous vous souvenez de vos enfants, quand vous avez joué les premiers fois que j'avais fait des jeux de société avec eux, ils prennent très mal le fait de perdre. Et donc, il faut leur apprendre à être de bons perdants et à être de bons gagnants. Des perdants qui ne sont pas pleins de rancœur et de ressentiment parce qu'ils ont perdu, ou des gagnants qui ne sont pas pleins d'arrogance parce qu'ils ont gagné. Parce qu'ils, voilà, être bon joueur, apprendre ça. Voilà, ça c'est, cet apprentissage-là permet de sortir justement de ces cercles vicieux. Alors, je reviens au visage. Je mets un tout petit peu de côté quelque chose que je tourne autour, mais je vais y revenir plus centralement tout à l'heure. C'est, je disais, l'humiliation empoisonne le langage. L'humiliation touche les passions du langage, de la parole, de la vanité, de l'envie, de la comparaison. La comparaison. L'humiliation a beaucoup à voir avec la comparaison. Or, le monde du langage, comme le disait le philosophe Kierkegaard, c'est le monde de la comparaison. Tout le temps. Donc, voilà, là. La honte devant les autres, la rage devant soi-même de ne pas avoir su quoi répondre, etc. Bon, ça touche les puissances de la parole. Bon. Alors cette émotion, c'est une émotion qui a été décrite par un philosophe britannique comme une émotion rouge-blanche. Et ça m'a intéressé par rapport au visage, parce que justement, le visage qui rougit de honte, je viens de parler de la honte, d'être montré malgré soi. On voudrait rentrer dans un trou. Et puis, non, les autres, le projecteur de l'attention du groupe est projeté sur soi, on n'arrive pas à en sortir de ce projecteur. Ça, c'est une première forme de l'humiliation. Et l'autre forme de l'humiliation, je disais, le visage qui pâlit, c'est justement d'être mis de côté, d'être, selon le mot actuel, d'être ghosté. Fait comme si on était un fantôme, on n'existe pas. On est invisibilisé, on essaye de parler, les autres n'entendent pas. On n'a pas de voix, on n'a plus de parole, on n'a plus de. Vous voyez, on est écarté malgré soi. Et là, on est défait dans l'estime de soi. On est traité comme du rebut, comme du rien. On est écarté. Et il y a encore deux manières d'écarter. Il y a une manière d'écarter en abaissant l'autre ou en éloignant l'autre. Je vais y revenir. Tout ça, c'est ne pas respecter le visage. Alors. J'en viens au cœur de ma définition de l'humiliation. L'humiliation, elle a plein de formes, vous voyez, elle est très très équivoque, moi. Mais elle a toujours un effet pragmatique. Qu'est-ce qu'elle fait, l'humiliation? Elle fait taire. Le propre de l'humiliation est de faire taire. Une humiliation à laquelle on réagit tout de suite, quelque part, ça veut dire qu'on a su l'attraper et en faire quelque chose. Mais les grandes humiliations, elles font taire. Ou alors, on a eu une parole comme ça, juste pour la galerie, mais en fait, on est rendu silencieux. C'est pas parce qu'on a répondu tout de suite qu'on a vraiment répondu. Parfois, la vraie réponse, elle peut mettre des années. Et parfois, elle va même prendre plusieurs générations. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer pour tous ces enfants qui sont dans des camps de réfugiés dans le monde entier, dans des situations sanitaires et de déroute, des défaites des familles, de mères violées, etc. Enfin, je pense à ce qui se passe dans l'est de la RDC. J'étais là au printemps à Bukavu, Goma. C'est 2 millions de réfugiés à Goma. Pourquoi? Parce qu'il y a des mines de cobalt et de trucs pour nos téléphones portables et des batteries de nos voitures. Enfin, il faut quand même qu'on sente aussi, pas du tout pour nous culpabiliser. Parce qu'en fait, il y a des pillages. Enfin bon, c'est. Mais voilà, qu'est-ce que ça va devenir tout ça? C'est quand même très effrayant. Bon. Donc, excusez-moi, je me perds dans mes. Donc, l'humiliation fait taire. Donc, on ne clame pas son humiliation, On ne s'en indigne même pas, visiblement. On ravale son humiliation. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'attaque au visage, c'est-à-dire au sujet parlant. Le sujet parlant va être défait dans sa capacité de parole. Il va perdre le crédit qu'il a à sa propre parole. Je me rappelle une jeune fille ici à Nîmes, avec l'association d'adolescents sans frontières. On était à la sortie d'un procès qu'elle avait eu, et où on avait été déboutée du droit d'asile parce qu'on disait qu'elle n'avait pas l'âge qu'elle avait. Et elle sortait en pleurant. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient à cette scène. On était. Elle avait dit « Ils ne m'ont pas cru ». Et elle pleurait. Elle ne pleurait pas de ne plus être dans l'hôtel où elle était logée aux frais du département. Bon. Non, mais ce qu'elle pleurait le plus, c'était de ne pas avoir été crue. « Ils ne m'ont pas cru ». Et ça m'avait beaucoup frappé. « Ils ne m'ont pas cru ». Donc, la parole qui n'a plus de valeur. Ta parole n'a aucune valeur. Et puis, du coup, la confiance dans la parole des autres est ruinée aussi. On ne croit plus personne. Et puis finalement, la confiance dans le langage commun est ruiné. On crée une société d'incrédulité générale, de soupçon général, une société de scepticisme général. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que, si vous voulez, la parole, j'ai beaucoup travaillé philosophiquement sur la parole. La parole humaine, elle est humaine, parce qu'elle peut tantôt grandir et tantôt diminuer. Avec la parole, on peut augmenter quelque chose. « Attends, arrête, c'est important !» On peut dire, oh, mais écoute, c'est pas grave, je me suis trompé, ou tu t'es trompé, ou on relativise. Vous voyez, on monte et on descend le curseur. Le grand problème, c'est quand le curseur est bloqué sur une seule position. Ou quand même le curseur est cassé et on a à la fois une parole qui est sarcastique, sceptique, dérisoire, tout est dérisoire. Et moi, j'entends beaucoup ce ton de la dérision, souvent. Trop. C'est important qu'il y ait du comique dans une société. Mais quand il n'y a plus de la dérision, tout est fun, rien n'est grave, etc. Et je vois beaucoup dans la jeunesse, parce que j'ai vu dans mes propres enfants, ce que ça faisait, cette parole de la relativisation et du dérisoire. Bon. Ou alors la parole devient au contraire fanatique, radicale. Elle demande infiniment à être prise au sérieux, à être crue, même faire des choses incroyable, si vous voulez. Ouais. Vous voyez, c'est ça qui. Donc, c'est ça que ça fait. La parole, voilà ce que devient la parole humiliée. Voilà. Et cette maladie, elle affecte vraiment, elle dévaste le langage tout entier, qui est, comme disait Paul Ricoeur, l'institution des institutions. Et le langage, c'est ça qui soutient toutes les institutions. Donc, voilà, d'un côté, insensible, tout est relativisé, c'est pas grave, je rigolais, etc. Sur l'autre côté, l'hypersensibilité. Le ressentiment amer dont parlait Cynthia Fleury, par exemple, la colère, la furie, la vengeance, les passions qui peuvent aller jusqu'à l'autodestruction. Il ne faut jamais sous-estimer la capacité qu'ont les humains pour exister, à préférer se faire du mal pourvu d'en faire à leur ennemi, ou à leur adversaire, aux autres, plutôt que de chercher à gérer leur intérêt tout simplement de manière raisonnable. Vraiment. Donc, voilà. Ça, c'est une phrase de Pierre Bayle. Un auteur ariégeois que j'aime bien, Pierre Bayle, au XVIIIe siècle, XVIIe siècle en fait, qui disait « L'homme préfère se faire du mal pourvu d'en faire à son ennemi plutôt que de se procurer un bien qui tournerait aussi à l'avantage de son ennemi. » Et c'est une remarque qui vient avant les Lumières, typique de l'époque de La Rochefoucauld ou de Racine. Enfin, on est dans ce siècle-là, c'est une remarque extrêmement forte. Et puis je disais tout à l'heure, l'humiliation, c'est le négatif exact de la reconnaissance. C'est-à-dire, vous voyez, la reconnaissance, quand on achète quelque chose, c'est donnant-donnant. Vous me donnez, j'achète quelque chose, je vous donne de l'argent et je prends la marchandise que j'ai prise. C'est un circuit rapide. La reconnaissance, c'est pas ça. La reconnaissance, ça prend du temps. Et c'est plus tard. On vous a fait un cadeau, plus tard, vous allez donner autre chose. Apparemment sans rapport dans le temps, etc. Donc, on diffère, et plus on a différé, plus on a donné autre chose, et plus c'est de la reconnaissance. Si vous dites 3 ans après à quelqu'un, vous savez, quand vous m'avez dit ça, c'était magnifique, ça a changé ma vie ce jour-là, là, c'est de la reconnaissance. Ça a attendu 3 ans, si vous voulez. Plus on attend, et plus la reconnaissance a de la valeur. Une reconnaissance, c'est bien, oh, merci, merci. c'est gentil, le merci, mais on est encore dans le, presque comme dans la monnaie de, d'échange, si vous voulez. Tandis que le merci qui vient longtemps après a pris de la valeur. Et bien je dirais que c'est la même chose pour l'humiliation. L'humiliation, c'est la même chose en négatif. Ça vient longtemps après et de manière disproportionnée. Moi, je suis un peu long, en fait. Hein. Non, ça va ? Bon. Alors, moi, je me suis beaucoup intéressé sur la question je reprends le titre, des humiliations sociales à l'humanisation, à deux figures de l'humiliation sociale dans notre société. Il y a la figure, et il faut pas que l'une masque l'autre, il y a la figure de l'esclave et il y a la figure de l'exclu. Tout à l'heure, je disais abaisser l'autre et je disais éloigner l'autre. C'est les deux grandes formes de l'humiliation. Et je voudrais justement revenir à la relative insensibilité actuelle, non seulement de la gauche, mais aussi de la pensée libérale, au thème de l'humiliation par rapport au fait que notre grand discours commun, général, de la critique morale, sociale, politique, c'est celui de l'émancipation. Il faut s'émanciper. Moi, ça a été mon vecteur philosophique, Calvin, Milton, Kant, etc. C'est l'émancipation, bien sûr. Sortir de la minorité, sortir de l'état de minorité dans lequel les humains se mettent eux-mêmes, disait Kant. Bon, qu'est-ce que les Lumières ? Bon. Oui, mais avec ce discours où il s'agit toujours de sortir de la servitude, de la captivité, eh bien, on est toujours sur le modèle du maître et de l'esclave, le modèle de l'humiliation verticale, hein, dans lequel... Et donc, voilà, là, face à ça, le discours de l'émancipation, il est génial. Bon. Mais c'est au nom de l'émancipation, d'abord, qu'on a fait les colonies, parce qu'on est allé pour émanciper... Il s'agissait de les émanciper. Les armées de Napoléon en Espagne, elles venaient pour émanciper, si vous voulez. Bon, enfin, il faut réaliser aussi tout ce que nous avons fait au nom de l'émancipation. Et donc, c'est devenu aussi une forme d'humiliation très spécifique. Parce que, finalement, des rafles d'esclaves pour traiter les gens comme du bétail, ça s'est toujours fait. Ce qui était original dans les colonies occidentales, pour lesquelles j'ai beaucoup d'admiration, hein. Moi, je suis pas... Je pense que dans le mot colonie, on mélange le pire et le meilleur. Bon, mais peu importe, c'est pas le sujet ici. C'est que ce qui était humiliant dans les colonies, c'est qu'on humiliait au nom de l'émancipation. Ça, c'est très, très, très particulier, quand même, comme mécanisme. Ensuite, c'est au nom de l'émancipation que... dire aussi une chose, c'est que la scène de l'émancipation, elle est interminable. On n'est jamais complètement émancipé de tout. Et donc, il y a un moment, émancipez-vous, il reste toujours de l'émancipation. Ça devient une sorte de mauvais infini, comme disait Hegel. On n'en sort jamais, et donc il y a une sorte de ressentiment. Et finalement, le grand récit de l'émancipation, il est en train de tourner dans le seul grand récit qui reste, c'est le grand récit du ressentiment. Car en fait, aujourd'hui, notre société est submergée par un grand récit qui est en train de prendre la place du grand récit du progrès émancipatoire et que le grand récit du ressentiment, de la rancœur et des manipulations démagogiques de la rancœur et du ressentiment. Je le vois politiquement partout, je le vois en Afrique, où je vais beaucoup, où je suis beaucoup allé, je le vois en France, etc. Et puis, le triomphe du grand discours de l'émancipation a débouché sur une société de solitude. L'émancipation, c'est déliez-vous. Ça m'était arrivé, j'avais fait un livre sur le divorce. Dans l'esprit, moi je ne vais pas rentrer dans cette histoire, c'est plutôt des intellectuels du XVIIe siècle, XVIe siècle même, qui pensaient le divorce comme émancipation. C'est ancien, c'est un thème très ancien. C'est lié à la réforme radicale, puritaine, si vous voulez. Donc éloge du divorce, éloge de quitter son pays, quitter son roi, éventuellement lui couper la tête, comme ils ont fait à la Révolution anglaise, quitter sa femme, quitter son mari. Calvin donnait le droit aussi aux femmes de quitter leur mari, c'est quand même assez original. Après, tout le monde est un peu oublié de ce calvinisme un peu des origines, bon, etc. Bon. Mais ça m'est arrivé justement d'avoir des discours là-dessus, et je me suis aperçu que dans les magazines comme Elle, etc., les magazines féminins particulièrement, on me demandait tout le temps des articles là-dessus, et ils aimaient bien ce petit discours, cette petite musique du « déliez-vous, déliez-vous, déliez-vous ». Bon. Et j'ai arrêté, je me suis dit « mais je roule pour qui, là ?» C'est pas ça que je veux. On se délie pour se lier à nouveau. On rompt une ancienne alliance mauvaise pour passer une nouvelle alliance bonne, si je peux dire. Mais si c'est juste pour se délier, ça finit par la solitude. Et une société de déliaison en général. Oui, bon. Et puis, de toute façon, les formes de servitude existent toujours. Des formes de captivité, des formes de minorité. On n'a pas fini ce travail, je dis, il est interminable. Mais un nouveau problème est apparu, auquel on est finalement relativement insensible à cause du discours de l'émancipation, c'est l'exclusion, c'est le sentiment d'être superflu, d'être inutile, d'être encombrant, d'être jeté. Et je pense que ça, c'est le modèle de l'humiliation sociale contemporaine, il est horizontal. C'est celui du in, et ceux qui sont in et ceux qui sont out. Hein, si vous voulez. J'ai beaucoup travaillé avec un sociologue qui s'appelle Luc Boltonski, qui a écrit un livre intitulé Le nouvel esprit du capitalisme, dans lequel il disait en fait le petit, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de liens, qui n'a pas beaucoup de connexions, donc il est obligé de les entretenir. Le grand, c'est celui qui a un immense carnet d'adresses. Il n'est pas forcément riche, mais il a tellement de carnets d'adresses qu'il peut toujours faire des nouvelles connexions qui font sa puissance. Bon. Et ça se voit lorsque un grand rencontre un petit. Un grand, il n'a pas de temps. Le petit, il a tout son temps. C'est juste ça. La scène élémentaire de l'humiliation, c'est ça. Et ouais, tous les jours, il faut que nous composions entre est-ce qu'on a du temps, est-ce qu'on prend du temps, est-ce qu'on ne prend pas du temps pour ça. Bon. Et le comble de celui qui est out, c'est justement à force d'entretenir le lien, mais de manière unilatérale, hein, c'est la 10e fois qu'il me téléphone, ce con, eh bien, il arrête de téléphoner. Il se jette lui-même, il se délie de lui-même. C'est très fort, ça. On est une société qui fabrique des gens qui finissent par s'exclure par eux-mêmes, d'eux-mêmes. On ne leur a rien fait. Ils se sont déliés d'eux-mêmes, si vous voulez. Ils se sont détachés. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut la résistance d'un autre discours face à ça, humanisant. Comme le discours de l'émancipation était humanisant face à l'esclavage, face à la servitude, face à la captivité, et notamment à la domesticité aussi de la femme, il ne faut pas se sous-estimer tout ça. Bon. Eh bien, un autre grand discours qui est nécessaire, j'ai beaucoup travaillé avec Mireille Delmas-Marty, la juriste, c'est le grand discours de l'interdépendance. On a eu beaucoup de déclarations d'indépendance, maintenant il nous faut des déclarations d'interdépendance. Nous devons mesurer à la face du monde notre besoin d'interdépendance. Et c'est aussi la pensée écologique, mais c'est aussi la pensée enfin, partout, on a besoin de redécouvrir notre interdépendance. Notre indépendance, c'est un rêve. Nous sommes dépendants les uns des autres. Et nous avons besoin de dépendance, je dirais, choisie, délibérément, approuvée, voulue. Moi, je parlerai volontiers de la fidélité. En tout cas, de la loyauté, de la solidarité, bien sûr. Ricoeur a ce mot extraordinaire, il parle de l'infini endettement mutuel. Nous sommes mutuellement endettés de manière interminable. Je parlais aussi avec un autre sociologue ami, Laurent Thévenot, de l'attachement. Nous avons besoin de sentir nos attachements. Nous avons besoin de... qui ne sont pas des chaînes, qui sont des liens choisis. L'éditeur du livre sur l'humiliation, ça s'appelle « Les liens qui libèrent ». C'est un titre magnifique pour un éditeur, « Les liens qui libèrent ». On est libéré par des liens nouveaux, des liens libres. Voilà, c'est ça qu'il nous faut. Ce titre avait été proposé par Bernard Maris, l'économiste, qui avait dit, qui était un ami de celui qui a créé cette maison d'édition, et qui avait dit « Tu cherches un titre pour ta maison d'édition, je te propose « Les liens qui libèrent ». J'appellerais aussi ça l'entretenance, l'entretien mutuel. L'entretien mutuel, on s'entretient mutuellement. C'est depuis le langage, la parole, jusqu'à l'entretien au sens vraiment, voilà, on fait la vaisselle, on prend soin les uns des autres. Tout ça, toutes ces choses-là sont des choses qui résistent à l'humiliation, à cette humiliation dont je viens de parler. Hein. Ne pas lâcher les liens, ne pas lâcher le soin mutuel. Voilà. Et puis, il faut passer, je vais terminer par quelques remarques sur l'institution. Ça va pour le temps encore ? Merci. Donc, comment penser l'institution contre l'humiliation ? Donc, il me semble que nos institutions, alors je pourrais aussi là faire un parcours des institutions, il y en a, elles sont de toutes sortes, hein, je disais un peu aussi, le monde du travail, c'est un monde d'institution. L'école, bien sûr, l'hôpital, la prison, les administrations, la police, l'État, bon, bien sûr, mais les hôpitaux, j'en ai parlé, mais même, d'une certaine manière, les théâtres sont des institutions, les associations sont des institutions. Il y a partout où quelque chose tient par le langage, tient par un langage qui dépasse la vie des individus et qui continue. Alors, je dirais, l'institution aujourd'hui, elle est écrasée entre soit une instrumentalisation verticale, on ramène l'institution à des rapports de pouvoir, c'est juste la force des rapports de force, soit elle est écrasée par, on ramène les institutions de plus en plus à des... d'une manière, dans une grammaire ultra-libérale des liens, à des contrats. Tout le monde est responsable, donc c'est toi, tu choisis, tu choisis, tu vas choisir, c'est à toi de faire, tu es responsable. Et donc, tout ramener à des petits contrats précaires, on est très très loin des grandes philosophies du pacte social, de Rousseau, de Hobbes, je parlais tout à l'heure de Calvin, là on a les figures de l'alliance, ou de la nouvelle alliance, ce sont des figures extrêmement fortes. Bon, aujourd'hui, tout ça, ça a été ramené à des petits contrats résiliables, et si possible, résiliables de manière unilatérale. Plus on peut faire l'autre ne me tient pas, je peux me défaire quand je veux. Vous voyez, bon, c'est ça. Alors l'institution, elle est écrasée entre des rapports ultra-verticaux et des rapports ultra-horizontaux. Bon. Or, je pense que l'institution, c'est autre chose. L'institution, excusez-moi, je termine encore cette phrase, c'est que du coup, c'est pas seulement les États qui sont en train de se défaire. Moi, je crains beaucoup ça. C'est aussi les sociétés qui se défont. Ce qui se passe en ce moment au Proche-Orient, c'est les sociétés entières qui se défont. Et ça peut nous arriver. Et je pense que la dérégulation, la désinstitution donne un libre cours aux mafias. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il y a une montée des mafias extrêmement inquiétante. Et si c'est pas les mafias au sens hyper dangereux, c'est juste les liens mafieux au sens où les amis de mes amis sont mes amis. Ah ben oui, c'est les pistons, c'est les serfs, c'est ça déjà la société de mafia. Ça commence comme ça, vous voyez, avec des parrains, avec du clientélisme, avec des allégeances. Et pourquoi ? Ben justement parce qu'on est une société hyper rationnelle, une société de rétribution. La rétribution marche bien, mais la reconnaissance, on n'est pas dans une société de reconnaissance. Les gens, ils ont besoin de lieux où ils ont des liens de loyauté, des liens de reconnaissance, des liens de fraternité forte, vous voyez, de solidarité forte. Ben, quand la société n'est pas capable d'assurer ça, ben, les mafias le font, elles le font très bien. Ben, elles le font entre nous, hein, pour nous, entre nous, dans l'entre-soi. Alors, je dis, les institutions, c'est autre chose que cette double réduction dont je viens de parler tout à l'heure. Ce sont des théâtres de sujets parlants dans lesquels nous interprétons qui nous sommes et dans lesquels, je vais reprendre à rebours ce que je disais tout à l'heure, nous pouvons à la fois nous retirer, être protégés par des écrans qui rétrécissent notre monde pour nous protéger. Qu'est-ce que c'est qu'une école ? Justement, il y a des murs, c'est fermé, et là, un auditoire, un amphithéâtre comme ça, vous voyez, il n'y a pas des grandes baies vitrées sur l'extérieur, sur la fête, sur la magnifique grande roue qui est là. Non, on est là. Ce n'est plus qu'une scène pour la parole. Vous voyez, bon, une classe, c'est pareil. Mais j'ai envie de dire, un hôpital, c'est pareil. Il y a des enceintes protectrices par rapport aux microbes extérieurs, par rapport aux assauts extérieurs. Bon, c'est qu'une prison. Vous voyez, toutes nos institutions sont d'abord des lieux du rétrécissement dans lesquels on se reforme. On reforme dans un espace de protection, dans un espace de respect. On remet de l'écran. Tu vaux mieux. Tu es capable de plus. Tu vaux mieux que ça. C'est ça qu'on dit. Et tu es assez bien ce que tu as fait, mais tu peux faire mieux. Et en gros, c'est ça le discours à l'intérieur. Et puis, l'autre côté, donc se retirer, être protégé, n'être pas montré malgré soi, si je puis dire, exposé malgré soi, comme le SDF qui est dehors tout le temps, exposé malgré lui. Il n'y a pas de dedans pour lui, il n'y a pas de chez lui possible. Et puis, au contraire, parce qu'on a pu se retirer, être protégé, se montrer à nouveau, paraître. Donc, rétrécissement, élargissement. Je pense que le grand rythme des institutions, c'est ça. Rétrécissement, élargissement. Comme une respiration. Il faut tout le temps penser les deux ensemble. comme face à l'humiliation, il faut arrêter le manque de respect de montrer les gens malgré eux et redonner une chance à montrer à chacun de montrer qui il est. Vas-y, viens dans le cercle, on ne cherche pas à te cacher, au contraire, montre-toi si tu as envie de te montrer, redonner une chance à l'estime et à la confiance en soi de tout le monde. Bon, c'est très facile, hein. Je fais de la grande philosophie, mais je pense que ce petit rythme, j'avais travaillé ça pour la prison avec le juriste Antoine Garapon. On avait vu que ça pouvait avoir des effets, des points d'application assez concrets. Donc, des institutions non humiliantes, voilà ce que seraient des institutions non humiliantes. Ce seraient des institutions qui proposeraient un rapport quand même relativement vertical à des autorités, mais des autorités reconnues, irréductibles à la domination, à des rapports de domination. L'autorité, ce n'est pas la domination. Il faut absolument qu'on redistingue le sens de l'autorité. L'autorité n'existe qu'à être reconnue. Si on ne reconnaît pas l'autorité, il n'y a pas d'autorité en soi, ça n'existe pas. Et puis des pactes qui ne soient pas des pactes résiliables unilatéralement, etc. Moi, je pensais, je faisais un éloge des institutions, justement, à Bukavu, dans le Kivu, là-bas en Afrique, dans cette région de désastre. Et je disais, parce qu'en fait, les institutions sont ruinées là-bas, ruinées. Je dirais, les églises actuellement sont les seules à porter quelques-unes d'institutions scolaires et hospitalières. Hein, bon. Mais les autres sont vraiment vides. Des églises parce qu'elles ont une surface un peu internationale. Si vous voulez. Alors je comparais les institutions, toutes nos institutions, à des vaisseaux. Et je pensais au film de Schoenderfer, Le Crabe Tambour. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce film magnifique, où le capitaine dit à un moment donné, on est sur le... là, très près du Groenland, là, de Terre-Neuve, il y a des glaçons, il y a des icebergs, il fait froid. Ça. Et il disait, sans vaisseau, les hommes ne font pas grand-chose. Et j'ai envie de dire, c'est ça. On a besoin, pour penser, une humanisation de nos sociétés. Le sous-titre était un défi pour nos institutions. Il faut aussi que les institutions existent. Hein. On a besoin, c'est des vaisseaux qui existent. Et je terminerai en disant... que voilà, nos sociétés sont au bord de voir se déchaîner les forces de les furies issues de l'humiliation, de la vengeance, du ressentiment, de la rancœur. Ce que le dramaturge Eschyle, le tragique grec Eschyle, appelait les érinies dans l'Orestie. Et donc ce sont les furies, ce que Bayle décrit en disant l'homme préfère se faire du mal, hein, cette capacité au mal que nous avons. Eh bien, ça me fait penser d'ailleurs à Simone Veil, que j'évoque aussi à la fin du livre, Simone Veil, la philosophe, hein, qui disait « On est barbare avec les faibles. On est toujours barbare avec les faibles. » C'est-à-dire, on peut pas, il ne faut pas être barbare avec les faibles, non, mais on est barbare avec les faibles. Donc, la seule solution, c'est que personne ne soit trop faible. Mais aussi, il n'y a pas que ça. Il ne suffit pas d'armer les faibles, de les équiper, de les former. Il faut aussi que les forts, que les très forts, se déprotègent un peu. Parce qu'il n'y a pas de société politique si les forts sont tellement blindés qu'ils sont inaccessibles. Je pense que ça, c'est le grand problème de notre société. On est une société d'hyperprotection. Et je dirais, mon mot d'ordre, ce serait justement pour sentir ce que nous faisons. Je parlais de sensibilité tout à l'heure. Le mot d'ordre, ce serait de se déprotéger un peu. Qu'il y ait quelques ouvertures dans notre cuirasse. Je comprends bien que c'est mieux d'avoir une voiture très solide en cas de choc pour se protéger, mais ça veut dire que du coup, il y a une montée. Les voitures, regardez depuis la 2 chevaux et la 4L, regardez comment on a changé. C'est comme les dinosaures, on est de plus en plus gros, de plus en plus carapacés, etc. Mais est-ce que ce n'est pas une folie, si vous voulez? Ça veut dire que du coup, on a l'accident à 130 à l'heure et il n'y a pas de mort. Mais il n'y a pas de mort tant qu'on est avec deux voitures du même format. Mais dans les rapports dans nos sociétés, ce n'est pas comme ça. Hein. Et c'est ce que je vois beaucoup en Afrique. Des endroits, il n'y a même plus besoin d'avoir des routes. Il n'y a plus besoin d'institutions. Il n'y a bien sûr plus besoin de chemin de fer. Il y a des 4x4 tellement puissants qui passent n'importe où, si vous voulez. C'est une société désinstituée. Il n'y a plus que des 4x4. Des 4x4 énormes. Hein, qui sont une espèce de fusée. Ils pourraient y survivre sur Mars, si vous voulez. S'ils avaient des provisions. Vous voyez, bon, c'est ça notre rêve. C'est ça qui nous porte, et c'est très dangereux. Voilà, donc, je reviens sur Simone Veil. Je reviens sur le théâtre tragique à Eschyle, à l'Orestie d'Eschyle. Il ne faut pas oublier que le théâtre tragique, il n'est pas politique. Il n'est pas sur l'agora. Il est au bord. Il est au bord de la cité. souvent dans un très beau site où on voit le coucher du soleil, etc. Bon, comme à Nîmes ici, hein, Doré. Et il a une fonction métapolitique, une fonction peut-être aussi métapsychologique, de faire un travail perpétuel de conversion des forces tragiques. Par ce que Aristote appelait la pitié, l'horreur et la pitié. La pitié, c'est justement réveiller la bonté. Réveiller par l'horreur le fond de bonté. Alors, c'est ce qui arrive dans l'Orestie d'Eschyle, où la dernière pièce de la trilogie, qui s'appelle les Euménides, ce sont les Érinnes, ce sont les Furies, ce sont les puissances de la haine, de la vengeance, de la mort. Ce sont des chiennes assoiffées de sang qui courent derrière Oreste pour le déchirer. Bon. Et il y a le tribunal de la cité qui arrive avec Athéna, il y a, mettons un peu de raison là-dedans, et on va voter. On va voter pour voir est-ce qu'il faut tuer Oreste ou pas, est-ce qu'on laisse les chiennes tuer Oreste ou pas. Et il y a un vote, et c'est 50-50. Bon, toute allusion à la situation actuelle. Bon. Et donc Athéna dit, mais moi je les vois prépondérantes, donc je dis... On fait grâce à Oreste. Alors, les Érinnes, non, mais c'est horrible, mais c'est. Voilà, il n'y a pas de. Vous nous humiliez. Et alors, non, justement, elles ne le disent pas, mais Athéna dit tout de suite, attendez, vous n'êtes pas humiliés. On a besoin de vous. On a besoin de vous. Revenez avec nous. Vous êtes, vous, les puissances de la mort, vous êtes aussi les puissances de la naissance, les puissances de la vie. Parce que sans les. Les Euménides sont les bienveillantes, sont les déesses de la naissance, du bourgeonnement, de la grossesse des femmes, etc. Donc vous voyez, on a besoin des Euménides. Mais les Érinnes, les puissances de la mort et de la dévastation, et les Euménides, ce sont les mêmes. C'est ça qui est génial, si vous voulez, c'est dans cette scène tragique. Et donc, ce que fait la tragédie grecque, c'est qu'elle fait ce travail de conversion, parce que tout de suite, le cœur tragique des Érinnes disent « Je sens que ma colère s'en va ». Et à ce moment-là, la paix revient dans la cité. Ah, mais c'est une scène absolument extraordinaire. On en a besoin aujourd'hui de ce genre de scène. On retrouve la même chose d'ailleurs dans le livre de l'Exode. Quand on voit Dieu, laisse-moi, je vais tous les tuer, etc. Puis Moïse qui arrive à apaiser Dieu. Et donc le Dieu de la fureur, le Dieu de la colère, terrible, terrifiant, qu'on a oublié, hein, on a oublié. Avec le bon Dieu, c'est devenu un peu... Mais justement, il devient le Dieu de l'amour, le Dieu bon. Mais le Dieu bon, il peut être aussi le Dieu de la colère. C'est les mêmes. Et c'est ça qu'on oublie souvent. On fait une théologie, on évacue un côté. Non, il faut penser que c'est les mêmes. Et ça veut dire que c'est les mêmes en nous. C'est parce que nous sommes capables de ce mal, de cette fureur, que nous sommes aussi capables du bon et du meilleur. Et donc, c'est ce travail de conversion. Mais... Ce travail de conversion ne peut se faire que parce qu'on renonce à humilier l'autre. Parce qu'on renonce à humilier, on les fait revenir dans le cercle. Voilà, j'arrête, Mathieu, merci.
Merci pour cette conférence exceptionnelle. Vraiment, parce que si vous avez des questions, je suis régalé d'entendre en fait que vous nous proposez de convertir les forces tragiques en puissance de la reconnaissance que l'homme a de la valeur pour nous et que vous destinez son guillet en quelque sorte, et je trouve ça remarquablement passionnant. Alors, est-ce qu'il y a des questions? En attendant les questions qui arrivent, je vous rappelle qu'il y a des livres que vous pouvez acheter et qu'on vous invitera à participer au fait de la soirée. Donc, est-ce qu'il y a des questions ?